collines. Et donc, ce sont également une mutualisation de moyens, de relations, de dialogue avec les collectivités locales, puisque tout ce travail-là se fait en lien avec un territoire qui s'appelle les collines, qui est aujourd'hui administré par 6 communes. Ce sont des grandes communes, hein. Une commune là-bas fait à peu près 100 000 habitants. Donc là, on est sur 6 communes qui font 570 000 habitants. Et le maître d'ouvrage, c'est un groupement intercommunal, le GIC, qui est en dialogue avec ce premier groupe d'entrepreneurs solidaires qui émerge. La société Sens appuie cette démarche, à la fois l'ingénierie de mise en place et le dialogue entre des entreprises et des élus, des responsables de collectivités locales pour veiller à ce que cette façon de faire de l'entreprise soit bien au service d'un développement voulu par les populations. Tout ça se fait avec l'appui du conseil régional, en lien avec des acteurs en Picardie, avec l'appui d'investisseurs privés qui investissent dans le dispositif chez les entreprises. Et ben, tout ça permet à ces petits producteurs, ces populations, d'accéder au marché. Hein? Donc c'est bien par l'accès au marché qu'on cherche à améliorer les conditions de vie, ou en tout cas dans une relation marchande, hein, de fourniture ou d'approvisionnement, que l'on cherche à améliorer durablement les conditions de vie des populations. Dans le dispositif, ben, il y a deux acteurs importants, la FASEC, qui est la Faculté des sciences économiques et de gestion, du Bénin, qui envoie aussi des stagiaires, et puis l'UTC, puisque on le voit aujourd'hui, on travaille ensemble sur, à la fois avec Pascal Jolivet, sur l'approche développement durable, sur des stages, et c'est dans ce cadre que donc Nathan, Benjamin, Timothée et Jacques ont fait leur stage. Voilà. Et l'objectif, ben, c'est aussi de travailler ensemble et puis de valoriser toute cette pratique, cette expérience, cette innovation. Hein. Pour nous, on est vraiment au cœur de l'innovation. La valoriser dans un espace comme celui-là, par exemple. Alors, ce qui a été particulièrement innovant dans le contexte du Bénin, au départ, ça a été de s'entendre justement sur entreprendre solidaire avec son territoire, c'est quoi ? C'est quoi la différence avec l'entreprise classique ? Donc il y a eu tout un dialogue en 2008 entre des élus et les premiers entrepreneurs, et puis nous, sur, pour nous acteurs des collines, c'est quoi développement durable ? Là, c'est un concept, rapport Brundtland, etc., d'accord ? Mais pour nous, on veut mettre l'entreprise au service de quoi ? Et donc il y a eu le sens donné, c'est pas celui qui est imposé par le Nord, comme dans le cadre du commerce équitable. Non, les critères que l'on veut donner à ce type d'entreprise, ce sont les acteurs locaux qui les ont définis. Ils ont défini 4 champs de critères qui sont séparés par 4 couleurs différentes et où on retrouve malgré tout la dimension sociale, économique, environnementale et gouvernance. Les 4 composantes importantes du développement durable. Les 3 premiers critères, ben, une entreprise solidaire dans notre territoire doit réduire la vulnérabilité des populations, respecter la santé et la sécurité des personnes, aussi bien dans les process de fabrication que dans les produits qui sont mis sur le marché, avoir une portée significative, hein, toucher un grand nombre de personnes. Ça, c'est pour, je dirais, dans sa dimension sociale, dans sa dimension économique, ben, ça doit être des entreprises économiquement viables, à terme. 3, protéger, respecter l'environnement et faire privilégier des circuits locaux, hein, l'ancrage territorial, la préférence locale. Et puis, partager le pouvoir, donc on a vu, hein, cette notion de gouvernance participative, la transparence, et s'inscrire, contribuer aux politiques communales et intercommunales. Alors, le groupe Entrepreneuriat Solidaire des Collines, qui s'est mis en place, a, avec les élus, les premiers entrepreneurs, choisi plusieurs secteurs porteurs dans le domaine de l'agriculture familiale, le petit élevage, les matériaux de construction, l'écotourisme et autres. Mais bon, pour le moment, les principaux secteurs sur lesquels les entreprises ont démarré, c'est l'agriculture familiale, le petit élevage. Donc il y a quelqu'un qui lance un réseau d'apiculteurs avec 300 apiculteurs, une entreprise d'éco-construction, une entreprise qui se lance dans la production de plantes aromatiques avec transformation sous forme d'huile essentielle. Tout ça avec un effet d'entraînement fort sur l'économie des ménages ruraux. Et puis une entreprise d'extraction d'huile, Timothée en parlera. Voilà. Alors, ben, je vais les laisser présenter chacun leur thème de stage.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Timothée Lequignoux et j'ai travaillé sur la production d'huile de Nîmes au Bénin. Donc, j'ai travaillé avec l'entrepreneur Thomas Sogba de l'entreprise solidaire HVC, donc l'huile végétale des collines. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est le Nîmes rapidement, c'est un arbre qui est originaire d'Asie du Sud-Est et qui est très répandu maintenant en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Bénin et dans la région des collines. Donc c'est un arbre, vous voyez une photo ici, c'est un arbre qui produit des graines oléagineuses qui sont riches en huile, qui sont au niveau des villages et que les villageois peuvent ramasser. Il y a un process de production qui permet d'obtenir l'huile de Nîmes qui présente plusieurs propriétés médicinales, cosmétiques, mais aussi et surtout insecticides. Donc pour expliquer un petit peu le contexte du stage et la problématique, c'était en créant une entreprise d'extraction d'huile, c'était de créer un circuit ou une chaîne de solidarité qui allait permettre de faire la production des graines au sein des villages, la transformation des graines au niveau de l'unité et la commercialisation des huiles en fin de chaîne. Tout ça, évidemment, en respectant, comme le disait tout à l'heure Michel, les exigences du développement durable. Donc pour cela, moi j'étais en stage dans la société Fidéol, qui est une société française spécialisée dans la production d'huile végétale. Et j'ai travaillé donc avec l'entrepreneur d'HBC, comme je disais tout à l'heure. Les enjeux du projet, c'était donc de concevoir l'ensemble du procédé, comment aller, pour faire simple, comment aller de la graine dans les villages à l'huile en sortie d'usine et à la commercialisation. Tout ça en ayant pour objectif que l'activité soit d'une part économiquement viable, comme l'a dit tout à l'heure Michel, qu'elle soit respectueuse de son environnement, puisqu'on peut le voir directement dans la nature de la ressource utilisée, qui est une ressource, ça vient d'un arbre, donc c'est bien de la nature, donc il y a des enjeux qui vont être forts là-dedans. Il faut que ça ait un fort impact sur les producteurs, plus précisément les productrices, c'est-à-dire sur les acteurs ciblés, puisque ce sont eux qui vont produire les graines et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir une ressource plus importante. Et enfin, dans l'aspect plus gouvernance, c'est que les acteurs soient ancrés localement et que ça puisse bénéficier au développement du territoire localement. Voilà. Je laisse la parole à Nathan encore.
Bonjour, Nathan Obadia, GP2. Donc moi j'ai travaillé au Bénin sur l'éco-construction. Donc le sujet de mon stage c'était donc justement éco-conception en matériaux locaux d'une habitation rurale pilote. D'un constat, c'est que dans le Bénin rural, il y a des forts besoins de logements, mais des logements plus sains, financièrement accessibles, hein, que ce soit pour les logements publics ou privés. Le constat aussi, c'est que l'évolution des techniques de construction, ça va complètement à l'encontre du développement durable. Beaucoup d'imports de tôles, on construit en ciment, etc. Et c'est pas ni écologique, ni sain, ça ne respecte pas le développement durable. Là, on peut voir sur la photo d'ailleurs que les toits sont en tôle, mais les techniques de construction ne sont pas du tout adaptées, les murs se fendent, et puis ils essayent de faire en sorte que ça tienne le plus longtemps possible. Donc, j'ai travaillé avec un entrepreneur solidaire, dont l'entreprise Comaloc, qui veut dire construction en matériaux locaux, conçoit et construit des habitations en matériaux locaux, donc principalement la terre, de la pierre et du bois. Voilà, donc il fait ça en zone rurale et en zone urbaine. La zone rurale, c'est pour les gens défavorisés, donc qui ont très peu d'argent. Là, l'entreprise va faire une marge la plus petite possible. Et en zone urbaine, pour les gens un peu plus aisés, et donc c'est là où l'entreprise fera plus de marge. La problématique, c'est donc de construire un habitat solide, qui respecte la santé, qui est économique et adapté au mode de vie des ménages ruraux. Il faut que l'habitation soit attractive aussi, que ça nécessite un minimum d'esthétisme et de modernité. Et puis, il faut valoriser au mieux les matériaux locaux. Donc, les enjeux de mon séjour là-bas, ça a été de contextualiser avec l'entrepreneur les techniques de construction durable, qui sont adaptées donc, justement à ce climat et au Bénin, et puis de concevoir un prototype d'habitat rural, donc en matériaux locaux, qui soit sain, financièrement accessible aux personnes villageoises qui sont donc dans le besoin. Je n'ai pas vraiment le temps de présenter ça, mais en gros, on est parti avec l'entrepreneur, on a visité plusieurs villages, on a analysé donc les besoins, les habitudes et les contraintes qu'il y avait, et puis à partir de ça, en se référant à des principes de construction adaptés, de flux adaptés, donc l'air et l'eau, hein, récupération d'eau de pluie et puis la ventilation naturelle, grâce à l'aide aussi d'un logiciel qui a été conçu par un professeur de l'UTC qui permet de simuler le rayonnement solaire tout au long de l'année sur n'importe quel point du globe terrestre, plus les données locales qu'on a pu récupérer là-bas, bah, à ce moment-là, on est arrivé à valoriser donc, les techniques de construction dans le contexte, puis faire bilan thermique et orienter le bâtiment de la manière la plus intelligente possible pour avoir un habitat frais, naturel. Voilà, naturellement. Et donc, aboutir à un cahier des charges, un plan et un devis du prototype.
Bonjour, alors moi j'ai travaillé sur la problématique de l'énergie rurale. Donc il y a beaucoup de villages au Bénin et dans la région des collines qui sont pas du tout dans le réseau national électrique parce qu'ils sont isolés, très enclavés. Et les communes ont beaucoup de mal à satisfaire les besoins en énergie parce que étendre le réseau ça coûte très cher et puis dans les villages il y a des besoins qui sont assez particuliers qui sont pas les mêmes qu'à la ville. Toute la problématique c'était de pouvoir trouver une solution de proximité donc au sein des villages qui permette de fournir un accès aux populations rurales, un accès à l'énergie et qui puisse satisfaire les premiers besoins de populations qui sont avec un véritable verrou de développement. Donc les enjeux
du stage, c'était de trouver une réponse technique et organisationnelle qui puisse être économiquement viable.
Donc on n'est pas sur un projet de subvention et de subvention à l'investissement et à l'année pour le fonctionnement, comme ça peut se faire, en tout cas quelque chose de bien stable économiquement qui puisse vivre et se développer dans le temps. Ensuite, quelque chose qui est adapté aux besoins et aux besoins en énergie des villages et aux capacités et compétences du village. On ne va pas débarquer une technologie dans le village comme ça pour résoudre les problèmes et puis se retrouver face à un problème de gestion de la technologie. Et puis une solution aussi qui respecte au mieux l'environnement. Donc là, on est quand même dans les trois composantes du développement durable. C'est comment faire quelque chose d'économiquement viable qui réponde à des vrais besoins et qui ait une utilité sociale. Et en ayant quand même la préoccupation de l'environnement. Donc la solution qu'on a imaginée, en fait, c'était une sorte de petite entreprise villageoise où sont concentrés des services énergétiques, où il y a une balance entre la rentabilité, enfin pour accéder à une rentabilité économique, il y a une balance entre la vente à perte de certains services et la marge faite sur d'autres services. Donc on peut atteindre une finalité sociale tout en conservant une viabilité économique. Et donc c'est une plateforme qui pourrait utiliser un biocarburant. Donc là on est dans le respect de l'environnement, en tout cas dans la préoccupation du respect de l'environnement. Et donc voilà, en deux mots, mon stage.
Bonjour à tous. Le thème de mon stage, c'est le froid. J'ai travaillé sur des systèmes capables de produire du froid à moindre coût et sans avoir recours à l'électricité pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc, les principales applications de faire du froid à moindre coût, c'est les trois, la conservation des fruits et légumes, obtention de boissons fraîches et climatisation de bâtiments. Donc au niveau du contexte pour la conservation des fruits et des légumes, c'est très compliqué parce que dans les pays en voie de développement comme le Bénin, il y a des gros problèmes au niveau du circuit des fruits et des légumes. Il y a des pertes vraiment non négligeables à différents niveaux, au niveau de la récolte, du conditionnement, du stockage, même au niveau de la vente et de la consommation, il y a beaucoup de pertes. Pour certains fruits, ça peut aller jusqu'à 80% de pertes. Donc il y a vraiment un contexte compliqué. Il faut trouver des technologies peu coûteuses qui vont permettre d'intervenir sur la chaîne du froid et pouvoir avoir moins de pertes et augmenter les revenus des populations et avoir des fruits et légumes de meilleure qualité pour avoir une meilleure santé. Donc on avait un mois de recherche avant de partir au Bénin. J'ai identifié une technique capable de répondre à ces besoins. Ça s'appelle le frigo africain. Donc c'est un petit système qui utilise principalement des matériaux locaux, donc de l'argile, du sable, et en l'humidifiant le sable avec de l'eau, par un principe d'évaporation, on va pouvoir refroidir une petite enceinte, un petit espace d'une dizaine de degrés, et on va pouvoir stocker à l'intérieur des fruits et des légumes pendant plusieurs jours. Donc on va pouvoir utiliser ça à différents niveaux de la chaîne de froid, pour les producteurs, sur les marchés, pour les commerçants qui vendent leurs fruits et légumes sur le marché. Après mon travail, ça a été j'ai testé la technologie déjà, j'ai trouvé quelqu'un capable de produire ce système, je l'ai testé avec des outils de mesure pour voir si ça marche, et j'ai obtenu des résultats assez satisfaisants. Après le travail, ça a été d'imaginer, de reprendre ce principe et d'imaginer des choses un peu plus grandes, à plus grande échelle, pour en stocker encore plus de fruits et de légumes. Donc voilà, les systèmes comme ça, en briques, on peut stocker une vingtaine de kilos de fruits et de légumes, on peut imaginer une alimentation continue en eau, auto-régulé. Donc après, j'ai aussi travaillé sur la climatisation. Là-bas, au Bénin, il y a des forts besoins en climatisation, que ce soit pour le confort dans les habitats urbains ou ruraux, pour des lieux de stockage, pour n'importe quelle activité économique, aussi pour des hôpitaux, pour des cyber ou des ordinateurs. Avec la chaleur et la poussière, c'est vraiment pas bon pour le fonctionnement des ordinateurs. Donc il y a pour répondre à ces besoins, il y a des solutions techniques simples, peu coûteuses, comme celle-ci. Donc c'est ça fait une cheminée solaire. Là, le soleil va chauffer l'air en haut, donc il va y avoir une différente température et ça va créer un mouvement d'air. On va utiliser ce mouvement d'air pour améliorer l'évaporation d'un petit film d'eau mis dans la cheminée solaire. Et donc ça va créer du froid à ce niveau-là, et après le froid va tomber dans le lieu qu'on veut refroidir. Donc voilà, c'est des solutions simples, peu coûteuses, qu'on peut adapter aux bâtiments locaux. Le problème de celui-là, c'est qu'il faut alimenter en eau de manière continue, avec trouver un autre système simple aussi, peu coûteux, où on évapore l'eau et la nuit on la recondense, donc on n'a pas besoin d'alimenter en continu en eau, on a toujours le même stock d'eau. Donc la journée, ça refroidit, et la nuit, l'eau se recondense et on la récupère. Voilà,
alors le travail qui a été fait, je dirais la partie, on va dire pour moi, la plus innovante de l'approche, ça a été de croiser les travaux ensemble des quatre étudiants et finalement de se mettre nous-mêmes dans une logique de gouvernance croisée où chacun travaillait sur son thème technique. Mais chacun a pris en charge un travail d'analyse transversale. Et donc Nathan avait pour mandat de se poser toutes les questions et de faire se poser à chacun les questions économiques. Donc c'était le monsieur viabilité économique des quatre projets.
Jacques plus dans la dimension sociale, Benjamin dans la dimension environnement, Timothée dans la gouvernance et comment ce processus de travail ensemble, où chaque type d'acteur dans le dispositif vient avec sa préoccupation et comment faire les compromis. Voilà, et donc maintenant ils vont vous présenter surtout ce à quoi ils sont arrivés pour chaque composante, quels ont été les enjeux, les questions posées. Alors ça sera forcément un peu rapide, hein, et puis des exemples de compromis qu'il y a eu à faire dans la démarche. Voilà, alors je laisse la parole à Nathan.
Bon, donc pour la composante économique, quels sont les enjeux de cette composante? On est parti du principe que l'entreprise doit être rentable, et être rentable à une échéance convenue. Et qui a cette échéance, elle doit être acceptée donc par les investisseurs. En général, c'est 2 à 4 ans. L'existence d'un marché, ça nécessite ça passe par une demande solvable. Donc il faut absolument trouver cette demande solvable et s'adapter. Et puis l'activité, ça repose sur une économie, donc une logique d'échange en fait. Et donc c'est une logique de réciprocité, d'échange gagnant-gagnant. Donc on est parti là-dessus. Donc à travers les 4 stages, puisque donc le principe c'était justement de prendre une composante et puis de l'analyser à travers les 4 stages, on a eu une démarche de questionnement qui donc est basée sur 6 critères. Donc le marché, le système de production, le réseau d'approvisionnement, le personnel, la rentabilité et le financement. Et donc à travers ces 6 critères, j'ai pu analyser donc à travers les 4 entreprises ou les 4 stages un certain nombre de choses, donc des questions à se poser qui sont intéressantes pour un entrepreneur. Donc je vais donner quelques exemples. Par exemple, pour le marché, une des questions principales, une des questions clés, c'est se demander quelles sont les différentes demandes solvables. Par exemple, pour la plateforme de Jacques, donc la plateforme d'énergie rurale, il y a différentes demandes qui existent, c'est l'électricité dans les maisons, les services publics pour l'éclairage du village, et puis les activités économiques du village. Autre question, quelle est la concurrence? Comment être plus attractif que cette concurrence? Et quels sont nos avantages? Et est-ce que le marché est stable à long terme? Pour reprendre l'exemple de la plateforme donc d'énergie rurale, il faut qu'elle soit implantée dans des villages qui ne vont pas être raccordés au réseau électrique à court terme. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est des villages qui sont très isolés et qui donc, ne pourront pas être raccordés. À ce moment-là, il y a une pertinence de s'introduire dans ce marché. Pour la production, c'est des questions assez basiques mais quand même très importantes. C'est comment on peut optimiser le procédé de production de manière technique. Hein, donc ça, c'est le rôle des techniciens ou des ingénieurs. Puis de manière organisationnelle aussi. La question fondamentale, c'est qui est le mieux placé pour faire le travail à moindre coût. Toujours se la poser. Le but, c'est de perdre le moins d'argent et de temps possible. Pour le réseau d'approvisionnement ou de sous-traitance, question clé, c'est comment on peut rationaliser les approvisionnements et éviter les coûts inutiles. Alors là, il y a un exemple de compromis entre la composante sociale et économique. Si je prends l'entreprise de Timothée, donc HVC, Huile Végétale des Collines, ils doivent acheter des graines de Nîmes à des producteurs et ils pourraient très bien les acheter à 100 francs CFA le kilo, mais l'entrepreneur a décidé donc justement de les acheter à 150 francs pour avoir un impact social très fort, donc pour augmenter le pouvoir d'achat des cultivateurs ou des paysans. Et donc ça, c'est possible, ça a été possible parce que la rentabilité existe toujours et elle est diminuée certes, différer peut-être, mais en tout cas, elle existe toujours. Et vu que le principal but, c'est l'impact social et le moyen, c'est l'économique, eh bien, si on a l'occasion de faire ça, pourquoi pas réduire notre marge ou la retarder un petit peu, ça pourra faire du bien aux personnes. Concernant le personnel de l'entreprise, question aussi à se poser, c'est comment on peut répartir la charge de travail et rémunérer le personnel au plus juste pour améliorer la rentabilité. Ça, on peut se demander si on peut donner peut-être des avantages en nature ou des primes. C'est toujours faisable. Pour la rentabilité, avant dernier point, Est-ce que le niveau de rentabilité est acceptable? Quel est le délai d'atteinte du seuil de rentabilité? Pas non plus que ce soit trop, trop long. Et quel est le niveau de bénéfice requis pour se pérenniser? Là, on veut d'abord satisfaire les impacts sociaux attendus, hein, mais donc ça veut dire que l'entreprise solidaire est prête à être déficitaire au début ou à réduire ses marges. L'important, c'est d'avoir un financement adapté, donc on verra ça dans le point suivant, et c'est surtout d'avoir fixé une échéance de rentabilité. Autre exemple de compromis entre composantes sociales et économiques, dans la plateforme énergétique villageoise, il y a un des services qui va être de fournir de l'électricité à une buvette, parce que la buvette, c'est extrêmement important dans les villages. C'est quand même un endroit de rassemblement dont tout le monde a besoin. Et la buvette, elle ne peut pas acheter le kilowattheure au prix de production, en fait. C'est trop cher pour elle. Elle ne voit pas, il n'y a pas d'intérêt financier. Donc là, la plateforme, elle va être prête à vendre à perte parce que c'est compensé par d'autres secteurs. C'est-à-dire que la plateforme va fournir de l'électricité à la transformation alimentaire, par exemple, qui va être beaucoup plus rentable. Et donc, ça va pouvoir compenser la perte de la buvette. Mais la buvette est quand même indispensable d'un point de vue social. Et dernier point pour les financements, c'est est-ce que les besoins de financement peuvent trouver des ressources nécessaires? Et puis, quel financement on va pouvoir trouver pour se permettre une rentabilité différée? Donc là, si on prend l'exemple des entreprises solidaires, bah, elles ont un financement hybride. C'est privé et public. Mais les deux sortes de financement, en tout cas les financeurs, les investisseurs, privilégient l'utilité sociale à court terme. Et donc, c'est des investisseurs patients. Ils ont accepté le fait que, oui, ils n'auront pas retour sur investissement directement et d'avoir une marge un petit peu plus faible. Mais au moins, on peut atteindre le but social. Voilà.
Alors, concernant la composante sociale, les enjeux, donc c'est le but, la finalité d'entrepreneuriat solidaire, c'est diminuer la vulnérabilité des populations. Et là, donc, tout le questionnement qui a à se faire, c'est comment améliorer l'efficacité de cette action, et comment la rendre pertinente. Donc, pour ça, il faut considérer tout le contexte dans lequel on travaille et non pas le voir comme des verrous, mais comme un appui. Donc s'appuyer sur le contexte social pour innover. Donc il y a quand même un apport, mais qui part d'une base qui existe et qui est solide, qui est stable. Donc innover de façon cohérente et performante. Donc les questions principales qu'on peut se poser en termes d'impact sociaux, c'est d'abord à qui s'adresse le produit ou l'activité de l'entreprise solidaire. Donc comment prioriser la cible, c'est-à-dire qui je veux toucher en premier. Après, il peut y avoir des préoccupations secondaires sur un autre public, mais il y a vraiment une cible principale pour une entreprise solidaire. Ça peut être soit l'usager d'un produit ou d'un service, soit les coopérants. Par exemple, pour l'huile végétale des collines, c'est les petits producteurs des villages qui sont les premiers bénéficiaires de l'activité de l'entreprise, parce que c'est eux qui sont rémunérés à un prix qui est vraiment préférentiel. Et ensuite, l'entreprise peut faire attention à ce que sur son unité de production, il y a un respect des conditions de sécurité, du personnel, une rémunération qui est correcte. Mais il y a vraiment un objet principal. Donc, quelle est l'utilité sociale pour eux? C'est ce que j'ai dit. Ça peut se décliner sous plusieurs formes. Et comment s'appuyer sur l'organisation sociale et comment la renforcer? Comment la renforcer, c'est comment renforcer l'utilité sociale à partir justement d'une organisation sociale. Donc pour ça, on va utiliser des petits exemples. Donc pour la production d'énergie en zone rurale isolée, l'utilité sociale, c'est de dynamiser les villages, générer du revenu, améliorer les conditions d'accès aux services de santé, par exemple avec l'éclairage, par exemple, des centres de santé, et générer du bien-être. Et il y a un problème, c'est la solvabilité des populations et leur, et leur envie quand même d'avoir de l'électricité chez eux, chacun pour sa maison, ça va s'acheter une télé, tout ça, même s'il n'y a pas forcément l'argent, l'envie est là. Et donc la solution, c'est qu'il faut centraliser, mais comment centraliser de façon stable ? C'est autour d'un noyau social qui existe déjà. Et Nathan a déjà parlé de la viabilité économique, c'est un noyau social et économique, parce qu'on a besoin de la viabilité économique. Donc la transformation des produits agricoles et le marché hebdomadaire dans les villages, c'est très important. Les gens, avec des habitudes alimentaires, ont vraiment besoin d'aller moudre leur maïs ou transformer d'autres produits. Donc c'est un socle sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Et à ce moment-là, on centralise la solution, mais les gens sont quand même ouverts à cette solution et vont puiser dedans pour créer justement une nouvelle plus forte cohésion sociale. Parce qu'autour de cette plateforme, il va y avoir une activité vraiment collective et une buvette, de l'éclairage public. Donc là, on renforce vraiment le dispositif grâce au contexte et au socle sur lequel on s'appuie. Bon, pour la production d'huile de Nîmes, la difficulté, c'est d'organiser justement l'approvisionnement dans les villages. Une entreprise classique aurait pu dire au village, bon, je passe toutes les semaines, vous achetez les graines, et puis j'achète à tel prix, et s'il n'y a pas, on n'achète pas. Et du coup, ça laisse le village s'organiser de façon qui peut être complètement dévastatrice pour le village. Là, l'idée, c'est de s'appuyer sur le concept des tontines, qui est très, très fort en Afrique, et donc de conserver une cohésion sociale et une organisation qui est socialement utile et qui respecte l'équilibre du village. Et donc là où on peut encore tirer une plus-value de cette organisation, c'est que comme il y a un réseau organisé, l'entreprise peut mettre à disposition du matériel, il a confiance en son réseau d'approvisionnement, il peut leur donner du matériel qui va pouvoir profiter au village à d'autres tâches. Donc là, il y a encore un gain supplémentaire à bien organiser tout ça.
Excuse-moi, tu peux détailler les tontines ?
Alors les tontines, c'est comment mettre en commun ce qu'on a pour en sortir plus fort. Quoi. Ça se fait avec l'épargne, ça peut se faire avec du matériel, ça peut se faire avec une organisation du travail. Donc là, pour HVC, un réseau de tontines, c'est plusieurs dizaines de personnes au village qui ensemble vont pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'elles font et mettre en commun, savoir, peut-être que Timothée pourrait préciser un petit peu.
Au départ, c'est un système d'épargne, c'est un but financier. En gros, une tontine, c'est faire à plusieurs ce que j'arrive pas à faire tout seul. C'est se fixer ensemble une discipline qui permet d'atteindre un objectif d'épargne. Le principe, c'est qu'on se fixe, par exemple, pour règle de cotiser chacun 1000 francs en fin de semaine, et puis chacun prendra son tour pour récupérer cette cotisation. Là, le principe de la tontine, c'est de se définir ensemble des règles qui vont faire qu'on va non pas constituer une épargne, mais un capital confiance et une régularité dans le respect des engagements avec l'entreprise partenaire. Ça repose sur le même principe.
Donc voilà pour mes exemples. Et on passe à la composante suivante.
Les enjeux au niveau de l'environnement, c'est d'avoir un environnement qui est au service de l'homme, d'aujourd'hui et de demain. Donc il faut que la population arrive à l'exploiter au maximum, puisque c'est là où elle va tirer toutes ses matières premières, ses sources d'énergie. Et c'est d'autant plus important dans les pays en voie de développement comme le Bénin, parce que la population dépend vraiment directement de son environnement. J'ai l'impression que dans le monde occidental, il y a plus d'intermédiaires, on est moins vulnérable à des problèmes qu'il peut y avoir localement dans l'environnement. Au Bénin, je crois que c'est 70% de la population vit directement de l'agriculture. Donc il y a des enjeux à long terme, il faut préserver l'environnement, les forêts, il y a des gros problèmes de déforestation actuellement au Bénin, préserver la qualité de la terre, de l'eau, des gros problèmes d'approvisionnement en eau potable aussi. Et il y a aussi des gros enjeux à court terme, localement, sur la santé, parce que il y a vraiment une pollution locale très importante, à cause notamment des transports et des déchets. C'est assez énorme de voir la différence entre les rejets nationaux, par exemple les rejets du Bénin en CO2, c'est moins de 0,1% des rejets mondiaux en proportion, mais localement c'est énorme la pollution qu'il peut y avoir. Par exemple, les plastiques sont jetés n'importe où et une fois qu'il y en a trop, on les brûle et ça fait des fumées super toxiques. Et les camions, tout ce qui est dans les transports utilisent de l'essence vraiment de mauvaise qualité, qu'il y a des rejets avec des forts impacts sur la santé. Donc au niveau questionnement, la question de base, fondamentale, c'est quand on veut lancer un projet dans ce pays, c'est se demander si le projet respecte l'environnement, et cela à tous les niveaux de la conception du produit, de la conception, de la fabrication, au niveau du fonctionnement, au niveau de tout le cycle de vie du produit en fait, que ce soit au niveau des matériaux utilisés, est-ce que c'est des renouvelables, est-ce qu'on peut utiliser d'autres matériaux moins polluants, et que ce soit au niveau des procédés mis en œuvre. Le problème, c'est que dans les pays en voie de développement, au Bénin, mais je pense c'est pas dans tous les pays en voie de développement, c'est comme ça, c'est que les gens raisonnent principalement à court terme et économiquement. Ils ont du mal à intégrer les préoccupations environnementales. Et donc la vraie question, en fait, c'est comment concilier les préoccupations environnementales et ce raisonnement des populations qui est à court terme et économique. Donc là, c'est vraiment la vraie question. Un élément de réponse, c'est un des critères de l'entrepreneuriat solidaire, c'est d'utiliser l'économie non comme un but, mais comme un moyen. Donc un exemple concret, c'est, on vient de le dire là, acheter plus cher les graines de Nîmes. Donc par exemple, les productrices qui récoltent des graines de Nîmes et les vendent, si elles les vendent plus cher, elles vont se dire, ça améliore mes revenus, ça assure une bonne partie de mes revenus, donc je vais devoir préserver ces arbres. Après, elle va se dire, il faut peut-être que je préserve tous les arbres parce qu'il peut y avoir le même principe, je peux aussi assurer mes revenus grâce à d'autres arbres. Et donc comme ça, petit à petit, avec un moyen économique à la base, on va amener les gens à vraiment préserver tous les arbres, donc la forêt. Et donc ça fait préservation spontanée. Ça permet de ne pas avoir... de ne pas obliger les communes, au bout de X années, à investir dans des programmes très coûteux en sensibilisation sur l'environnement et en programmes de reboisement. Notre question à se demander importante, c'est est-ce que l'environnement autour de l'activité que je fais, est-ce qu'il est vraiment mis en valeur ? Parce qu'il y a vraiment en Afrique, des potentiels au niveau des matières premières qui ne sont pas exploités. Il y a vraiment comme le Nîmes, le Jatropha, c'est vraiment des matières premières qui ont des propriétés incroyables, mais c'est mal exploité parce que simplement les populations ne les connaissent pas, ne connaissent pas les applications qu'on peut faire avec, parce qu'il y a des problèmes de diffusion de la technologie, de mise à disposition des connaissances. Et donc avant d'apporter une technologie, par exemple les panneaux photovoltaïques où tout est fait en Europe et on va apporter ça en Afrique, avant c'est de demander est-ce qu'il n'y a pas des matériaux locaux qui peuvent arriver aux mêmes objectifs. Et donc toutes ces questions amènent à se demander est-ce que la prise en compte environnementale apporte forcément un surcoût. Pas forcément, avec des matériaux locaux on diminue plein de choses, le transport, enfin, c'est énorme les impacts. Par exemple, pour le Jatropha, on peut faire du biocarburant et c'est énorme les impacts en diminution des impacts sur l'environnement. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'essence au Nigeria. C'est ce qu'ils font tous au Bénin. Il y a des gros problèmes de corruption, de concurrence. Ça permet d'avoir des rejets beaucoup plus propres et d'être beaucoup plus stable financièrement avec des matériaux locaux. Une autre question un peu plus particulière, c'est quand on apporte une solution qui répond bien à des critères environnementaux, par exemple, comme Alloc, l'entreprise qui construit en éco-construction, voulait faire des toits en paille, parce que c'est un bon isolant, c'est écologique, c'est pas cher, c'est un matériau local. Mais après, est-ce que les gens vont l'accepter? Parce que dans ces pays-là, il y a les gens qui sont riches veulent montrer qu'ils sont riches. Parce qu'il y a, le rang social est important, il y a une forte culture. Donc, par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas montrer qu'ils ont une maison en paille parce que c'est un signe de pauvreté. Donc il y a des verrous culturels à ne pas négliger. Autre question, c'est se demander simplement si la population locale a conscience des impacts que peut avoir certaines activités sur sa santé. Par exemple, j'ai vu beaucoup au Bénin sur place des gens qui brûlaient les plastiques, et les gens restaient juste autour et regardaient, ils étaient dans la fumée, ils n'avaient aucune conscience des impacts vraiment mauvais sur leur santé. Dernière petite question, c'est se demander si on a vraiment les mêmes critères environnementaux en Occident et là-bas dans les pays en voie de développement. Par exemple, est-ce que c'est vraiment utile de développer pour la plateforme qui peut faire beaucoup de bruit, est-ce que c'est vraiment utile de développer une salle où on va mettre la plateforme et on va l'insonoriser pour que ça fasse moins de bruit? Est-ce que c'est vraiment utile de faire des efforts économiques pour diminuer des impacts environnementaux qui sont par exemple le bruit, alors que les gens là-bas finalement s'en fichent un peu et sont habitués au bruit? Donc faut pas forcément se dire nous on a ça en France, on n'aime pas le bruit, donc on va faire pareil en Occident. Faut vraiment s'inspirer des préoccupations des gens sur place pour s'inspirer pour faire un modèle de développement durable. Juste je vais donner un exemple de compromis que j'ai eu à faire. Non.
Okay. On fera avec les questions.
Ouais. Bon, je vais parler rapidement maintenant de la gouvernance et comment avoir une gouvernance adaptée. Donc, pour donner une définition brève et au sens large un peu, la gouvernance c'est le décentrement de la prise de décision, décision impliquant différents lieux et acteurs concernés. Ça regroupe des modes de régulation souples fondés sur le partenariat entre différents acteurs. Donc pour expliquer un petit peu, c'est comment les différents acteurs concernés, donc l'entrepreneur, son personnel, les producteurs dans les villages par exemple, les investisseurs dans l'entreprise, les collectivités locales comme la mairie, peuvent s'organiser et adopter un mode de gouvernance qui sera le plus adapté, donc gouvernance adaptée, à l'activité mise en place, quoi. Donc pour ça, il faut choisir les acteurs et leur pouvoir de décision pour établir des règles de gouvernance. Donc dans le statut, les règlements. Donc, concrètement, par rapport au développement durable, ça va être de choisir une gouvernance qui va constituer un système de régulation qui va permettre de concilier les préoccupations entre l'économie, l'environnement et le social. Donc les enjeux pour une bonne gouvernance, c'est, donc, comme je le disais, de définir une organisation, un mode de gouvernance, un système de décision qui soit efficient. Alors efficient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il permette à moindre coût de prendre les bonnes décisions, efficace aussi au regard du développement durable. Et efficace au regard du développement durable, ça veut dire qu'il concilie et fasse les bons compromis. Donc on a vu différents exemples de compromis. C'est comment on allait pouvoir s'organiser pour faire ces bons compromis et respecter les trois critères, encore une fois. Donc quelques questionnements pour justement choisir ces organisations, ces modes de gouvernance. Qui doit prendre part aux décisions, c'est-à-dire qui sont les parties prenantes. On a parlé tout à l'heure des différents acteurs, faut bien les repérer et apprendre à les connaître et voir notamment leur position par rapport à l'activité. Est-ce que ce sont des parties qui sont directement concernées, par exemple les villageois dans les villageois qui vendent par exemple les graines de Nîmes, ou est-ce que c'est une personne ou une entité qui va être influente, comme la mairie qui va pouvoir prendre des arrêtés communaux ou des choses comme ça qui vont avoir des incidences sur l'activité. Quel type et niveau de pouvoir pour chaque partie prenante? C'est-à-dire que d'où provient, entre guillemets, et quel est le type de pouvoir de la partie prenante? Est-ce que c'est elle obtient son pouvoir du fait qu'elle soit propriétaire de quelque chose, d'une terre ou de quelque chose d'autre. Est-ce que c'est une légitimité qu'elle obtient par une maîtrise technique, savoir être spécialisée dans certains domaines? Est-ce que c'est un pouvoir de désignation, par exemple la désignation élective, si c'est quelqu'un qui est élu? Ou alors c'est plus une légitimité traditionnelle, à savoir le respect par exemple des anciens ou autre. Après, c'est quel niveau de pouvoir, donc c'est quelle importance va avoir la partie prenante dans les activités. Et enfin, il y a un moment où il faut arrêter donc ces gouvernances et c'est choisir quelle organisation et quel statut. Est-ce que ça va être des contrats, des conventions entre les différents acteurs? Est-ce que ça va être une association de personnes? On a parlé des tontines. Est-ce que ça peut être le statut même de la société si c'est une SARL ou autre? Voilà. Donc, alors après, maintenant, je ne vais pas détailler, je vais reprendre juste quelques éléments. Au cas concret d'HVC, donc l'huile végétale des collines, encore une fois, on voit ici le mode de gouvernance qui a été adopté, entre l'entreprise qui va avoir des apports au territoire, dans un sens, alors que la commune va faire un appui à l'entreprise. Donc on peut prendre on peut voir que ce mode de gouvernance et de contrat qui est passé entre ces deux entités va permettre de regrouper les compromis. Par exemple, ici, on voit que l'entreprise s'engage à payer les taxes et les impôts lorsque la rentabilité le permet. Et dans le même temps, on voit que la commune accorde un délai de grâce pour la fiscalité. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord à travers ce contrat pour avoir une patience fiscale, pour mettre en place cette patience fiscale. Une autre chose rapidement, ce qui est intéressant, c'est de dire que l'entreprise HVC, à terme, un de ses objectifs, c'est de faire en sorte qu'une fois que les producteurs, les tontines, ont pu se développer de manière significative et qu'elles commencent à avoir du revenu et à avoir vraiment, qu'elles ont commencé vraiment à bien marcher, elles prennent part au capital après, mettons, 2 ou 3 ans, quand l'entreprise et les tontines sont prêtes, pour qu'après, elles puissent prendre elles-mêmes part aux décisions d'HVC. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va vous dire une petite chose un peu plus personnelle sur ce qu'on a ressenti là-bas quand on a travaillé avec les gens. Donc moi, je vais commencer pour dire que moi, j'ai travaillé donc avec un entrepreneur, comme je le disais, et moi, ce qui m'a marqué dans le travail là-bas, c'était que les gens sont... les gens en tout cas avec qui on travaille et les gens qui ont adopté cette démarche, c'est des gens qui sont prêts à faire des concessions et qui ont fait des choix très forts et qui sont demandeurs de tout un tas de connaissances. Et quand on parle, à un moment, on parlait de formation technique et organisationnelle, c'est des gens qui ne demandent que ça et qui sont vraiment très compétents une fois qu'on a commencé à leur parler. Moi, je sais que quand je travaillais avec la personne en question, on discutait ensemble et à la fin, c'était intégré et pensais même, c'était vraiment un visionnaire pour moi. Quoi. C'était vraiment un visionnaire.
Moi, je voulais juste dire que j'ai trouvé ce stage déjà très innovant, parce que je pense que c'est une première à l'UTC de pouvoir faire un stage déjà avec 4 étudiants ensemble. On a travaillé ensemble pour justement cette approche matricielle du développement durable. Et ça a été une expérience extrêmement riche. D'un point de vue culturel, c'est sûr, puisque on a dû travailler avec une culture différente. C'est pas la même chose que de visiter un pays. Et surtout, très riche du point de vue de l'approche de Michel. Donc voilà, avec l'entrepreneuriat solidaire, qui a une vision sociale qui, pour moi, a un véritable sens. Voilà.
Moi, j'aimerais juste dire que là-bas, j'étais frappé par... l'incohérence et l'absurdité parfois d'un modèle de développement qui peut être transposé d'un monde occidental vers des pays qui sont radicalement différents et qui ont... Et donc là, je pense que le développement durable, il a toute sa place, même s'il est vraiment éprouvé. On a vu que c'est difficile d'arriver à vraiment penser durable dans un pays qui a déjà beaucoup de problèmes et des gens qui ne sont pas forcément concernés parce que nous, on peut imaginer dans nos têtes d'occidentaux qui remettent en cause le monde, tout ça. Mais il y, donc il y a vraiment une place pour un développement durable qui rassemble les gens autour des mêmes envies, d'intérêts collectifs. Et donc je pense que c'est découvert aussi toute la pertinence du développement durable dans des contextes qui sont quand même très difficiles. Et aussi l'importance énorme de la gouvernance, de comment faire coopérer les gens ensemble autour d'un projet commun et comment comprendre ce qu'ensemble ils peuvent comprendre là où ils doivent aller. Et à partir de là, le durable, c'est quoi le problème.
Avant de ce stage, je ne connaissais vraiment pas grand-chose de développement durable. Là, le fait d'y avoir été confronté concrètement, d'avoir à réfléchir sur les enjeux, sur les compromis à faire, c'est vraiment des choses qui restent à vie, parce que c'est une manière de réfléchir qui, je pense, qui va m'arrêter vraiment longtemps, parce que ça change vraiment d'une UV, on apprend quelque chose, et malheureusement, on a tendance à oublier. Ça, c'est vraiment des choses qui restent à vie. Sauf pour des dénoncés.
Tu sais que t'as des profs, quand même, dans les salles pro. Ah, c'est ce que tu dis, quoi.
Oui, ils sont en civil.
La différence entre les ONG par exemple qui viennent avec des projets, avec des subventions, là tout le processus il est justement mis en place avec des acteurs locaux, puisqu'on part des acteurs dans le schéma tout à l'heure, on part des acteurs locaux vulnérables et des gens, des entrepreneurs solidaires qui veulent travailler avec ces gens-là. Et c'était comment organiser tout ça et ce travail-là, les 8 critères qui ont été énoncés notamment, ils ont été trouvés avec les gens là-bas. C'est pas quelqu'un qui est arrivé, enfin, sans, c'est pas par exemple arrivé là-bas en disant voilà, on va faire ça. Ça a été construit avec les gens là-bas.
Parce que l'envie est là, il y a vraiment des gens qui disent moi j'ai cette compétence et je voudrais que ça profite au plus grand nombre, mais après il y a quand même toute l'organisation, la mise à disposition des connaissances, des réseaux et des financements. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens au Bénin et il y a Sens en France et le Conseil régional de Picardie qui sont là justement pour permettre à tout ça de se créer et de vivre. Mais c'est sûr que l'envie de faire du solidaire justement pour sa région et pour les autres, elle est là à la base.
Et exemple concret, l'entrepreneur en matériaux locaux avec qui j'ai travaillé, avant de se lancer, il avait vraiment l'idée d'aider les populations. Pour lui, c'était vraiment, il voulait faire ça, il voulait aider les populations rurales parce qu'il voyait très bien que les habitats n'étaient pas du tout appropriés. Et donc, en rencontrant Michel, et puis surtout en se décidant de se lancer, parce qu'il ne voulait pas non plus faire que ça, il voulait quand même avoir donc une entreprise viable économiquement, et donc pour pouvoir être viable économiquement tout en aidant ces populations, il faut quand même faire des marchés un peu plus gros. Mais en rencontrant Michel, il a trouvé le moyen de faire ça en fait. Et donc tout ça, évidemment, eux ne le connaissent pas à la base, ils peuvent avoir des envies, des idées, et puis en rencontrant Sens, et puis toutes ces organisations dans le pays, ils ont la capacité de le faire. C'est ça qui est beau.
J'ai une petite question. Si vous parliez donc des investisseurs publics et privés, donc publics, j'imagine, c'est le Conseil régional de Picardie, cet investissement, c'est sous la forme purement d'une sorte de subvention, ou c'est vraiment sous la forme d'un prêt, ou le Conseil régional de Picardie attend un retour, c'est-à-dire son remboursement.
Il y a deux grands types d'investissements. Il y a de l'investissement humain, parce que ça nécessite de l'organisation, de la formation, etc. Donc tout ça, c'est le public qui finance tout le travail d'accompagnement, de mise en relation des entrepreneurs, d'appui à l'expertise, tout ce qui est renforcement des capacités, on va dire, hein, qu'elles soient techniques, organisationnelles, marketing, gestion. Par contre, tout ce qui est investi en dur dans les entreprises, hein, que ce soit de l'équipement, du fonds de roulement, de la matière première, là, c'est du financement, on va dire, remboursable, à l'exception peut-être, on est en train de l'étudier, de la plateforme d'approvisionnement d'électricité, qui est une compétence communale, où là, ce serait la commune qui investirait dans un bâtiment et qui le mettrait à disposition d'une entreprise privée qui va gérer le service à l'intérieur du bâtiment. Et les fonds privés, donc, ce sont des investisseurs, personnes physiques ou personnes morales. Et il y a un mécanisme d'investissement, une société qui fait la prise de participation au capital ou du prêt en compte courant à ces entrepreneurs. Donc c'est, oui, c'est remboursable. Dans le jargon, ça s'appelle du capital risque solidaire. Et ce qui est vraiment important, c'est de bien séparer le financement qui va dans le champ économique de l'entreprise et puis ce qui est subventionnable et qui mérite de l'être, qui est le soft, l'accompagnement, la formation, qui fait que un investissement privé économique va générer à travers cette subvention publique, cet accompagnement, une utilité sociale. Hein, c'est vraiment la conjugaison des deux qui fait ce résultat, qui optimise l'économique, l'impact de l'économie sur le social.
Est-ce que vous pouvez expliciter les apports pour le développement local Picard?
Oui. Alors, ils sont de différents ordres. Il y a des choses assez classiques, comme des échanges économiques. Sur l'huile végétale, on a une entreprise ici en Picardie qui est très intéressée par l'huile de Nîmes et qui envisage d'en importer pour la mettre dans la fabrication de produits phytosanitaires, puisque c'est un insecticide naturel et donc il y a une grosse évolution de la chimie verte dans les pays du Nord. Donc là, c'est intéressant, commercialement, hein, économiquement parlant. Il y a un intérêt des collectivités locales, des élus du conseil régional sur une façon d'inventer de l'économie au service du développement local. Donc cette approche cluster d'entreprises solidaires, seulement après un an après l'avoir initié au Bénin, le conseil régional l'achète entre guillemets, ainsi que l'ARC et l'association Pays Compiénois. Bon, c'est dans les circuits de décision en ce moment, mais l'idée de développer une notion de cluster d'entreprises solidaires sur le Compiénois est en train d'émerger. Donc c'est intéressant de voir que pour une fois ça vient du sud. Et puis ben voilà, moi je pense qu'il y a un effet retour ce matin dans cette salle sur l'expérience, en tout cas ce que nous ont exprimé les quatre étudiants qui ont fait ce stage. Ça vient bien en complément de la formation théorique qu'ils reçoivent ici, une mise en pratique comme celle-là. Il y a un effet retour économique, technique, formateur, en termes de formation et en termes de vision. Et compréhension de ce que peut être un développement local basé sur l'entreprise.
Pour donner un petit exemple un peu plus concret, avec Sébastien, lors du dernier voyage de Michel, il y a un apiculteur béninois, un apiculteur béninois qui a accueilli un apiculteur picard, qui ont donc travaillé sur l'exploitation et le travail qu'avait fait l'apiculteur béninois dans les collines. Et l'apiculteur français, Sébastien, comment il s'appelle ?
Santerre.
s'est dit que ça marchait tellement bien que la stratégie qui avait été mise en place là-bas, il allait faire la même chose ici, quoi. Donc c'est pas juste dans l'idée, c'est dans la réalisation aussi, quoi.
Allez-y. Ce qui est passionnant dans votre exposé, c'est l'articulation entre le technique, vous êtes des ingénieurs, et toutes les dimensions molles, plus humaines. qui, dans cette maison, sont délégués à d'autres personnes, des ingénieurs, sciences dures et sciences molles d'un côté. Là, elles sont. Alors, si j'avance vers ma question, vous avez évoqué assez fréquemment la population. De la même manière qu'ici intervient Cap et Synchrone. Et donc, ça m'amène à poser une question assez précise, c'est la question du genre, des hommes et des femmes. L'expérience que je connais de certains lieux, par exemple autour de plateformes multifonctionnelles, où la question de l'huile va poser la question de l'articulation entre les genres, entre les hommes et avec les femmes. Chacun des genres ayant à un moment donné une participation précise, des points précis, dans quelque chose qui se chaîne. Avec une idée importante, c'est que d'une certaine manière, si je suis un peu caricatural, il va y avoir plutôt la gestion, la gouvernance ou l'animation qui va être déléguée à un genre à qui on a a priori confiance. Et puis, sur d'autres aspects, une expertise plus technique avait délégué à d'autres acteurs. Avec une idée extrêmement importante, c'est celle du pouvoir financier, de la marchandisation qui est introduite et qui pose après la question de la répartition du fruit qui est fourni. Ça peut être un fruit symbolique qu'une collectivité peut partager, mais dans deux cas, se pose la question de l'attribution, de la répartition des espèces consommantes et trébuchantes. Alors, est-ce que vous pourriez, évidemment c'est un long propos, mais cibler quelques points que vous avez identifiés en tant que praticien, surtout quand vous étiez des technologues, vous étiez porteurs d'une solution technique, vous étiez des hommes, et tantôt c'était certains de vos interlocuteurs étaient dans des entrepreneurs, pas des entrepreneuses, si j'ai compris, et quelles pouvaient être vos relations avec ces différents genres.
Il y a une future entrepreneuse quand même, potentiellement, qui arrive. Je peux commencer avec l'idée du... Pour reprendre l'idée des tontines, le groupe de producteurs, dans cette organisation, donc, il y a les acteurs cibles, donc ce sont des productrices, c'est ça l'idée. Et dans cette tontine, il va y avoir un responsable technique qui serait plutôt... ça peut être un homme ou une femme, là il n'y a pas de... Il n'y a pas d'a priori, mais qui doit avoir certaines compétences qui ne vont pas être remises en cause par le reste du groupe. Et il y aura un représentant moral, c'est-à-dire que ça peut être un vieux ou une vieille qui est connu de tous, qui est respecté, qui est qui va pouvoir aussi calmer le jeu, entre guillemets, si à un moment il y a un peu d'animosité. Dans le partage du fruit, comme vous dites, c'est que l'entreprise, à terme, l'objectif, c'est qu'elle travaille non pas avec une seule individualité de producteur, mais la tontine en elle-même. Et par exemple, si n'importe quoi, si elle prend une tonne, elle paye pour une tonne, et après c'est la tontine qui redistribue. Donc c'est dans ce partage-là, ça va être à la tontine elle-même de fixer un règlement. Alors est-ce que c'est le responsable technique qui veut pas être payé, mais il veut qu'il y ait un de ces carrés de terrain qui soit labouré par le mari, le téléphone, c'est à eux de se mettre d'accord, et c'est la responsabilité donnée au groupe, et non pas à l'entreprise qui va diriger. C'est la tontine qui adopte un mode de gouvernance, pour le coup, qui va lui permettre de rémunérer ses représentants, et en même temps d'avoir un cadre de travail adapté. Il n'y a pas de, entre guillemets, pas de tontine pareille, quoi. Il se peut que d'un village à un autre, ce soit... pas le même mode de travail.
Jacques.
Non,
je suis un peu perdu.
Alors, c'est une question des femmes et des hommes.
Oui, faites concis, ouais. Parce qu'on est en train de dériver, on va dire, horaire.
Non, ouais. Ben, alors, dans ce qui est mis en place, dans ce qu'on a pu faire pour régler ce problème ou gérer ce problème, là, je suis un peu à court. Par contre, sur ce que j'ai rencontré vraiment sur place, c'est sûr que c'est pas. Des réunions dans les villages pour discuter avec les gens, il faut vraiment insister pour qu'il y ait une femme dedans. Et ce qui est sûr, c'est qu'au Bénin, il y a vraiment, je pense que c'est tâches qui sont réservées à hommes, femmes. Et donc c'est très difficile de suggérer que le personnel de la plateforme, par exemple, qu'il y ait une femme et des hommes. Là, ça pose effectivement des problèmes. Mais je ne suis pas allé jusque-là, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment une séparation des genres, et encore plus, c'est pas tellement du machisme, c'est vraiment un tel fait ci, un tel fait ça, et puis chacun a son poids dans la société. Et,
J'ai envie de dire, la préoccupation, elle est prise en compte fortement à deux niveaux. D'abord, dans ce qu'on appelait le ciblage, à qui on veut s'adresser. Voilà, ce service-là, il va avoir de l'impact sur qui vont être les usagers. Donc la plateforme, on voit clairement toute l'importance pour les femmes, par exemple, de la transformation, du riz, ça divise par combien, par 10, le temps qu'elles vont mettre au décortiquage, par exemple, du riz. Et puis, donc, dans le ciblage, l'entreprise qui fait des plantes aromatiques, son but social, c'est travailler avec des femmes veuves qui sont en grande difficulté dans les villages et pour lesquelles il faut trouver des systèmes de production agricole adaptés à leurs moyens et leur emploi du temps, etc. Donc il a choisi cette production-là par rapport à elle. Donc dans le ciblage. Hein. Et puis deux, dans la gouvernance, puisque ceux qui font le travail, c'est ceux qui ont la force, le temps, etc. Mais en tout cas, ceux qui participent à la gouvernance, notamment à travers les comptines en prenant part au capital, ça peut être justement les femmes qui vont veiller à ce que l'utilité sociale voulue au départ soit maintenue dans la durée. Quoi.
Bien, malheureusement, je crois qu'on doit...
Très brièvement, oui. Je voulais vous féliciter déjà pour l'expérience qui est excellente et puis la restitution. J'avais noté pas mal de questions et elles ont pratiquement toutes été répondues pour la présentation. Il en reste une. Je veux savoir comment Sens se finance et réunir ses équipes.
Ouais. On fait partie de, en termes d'investissement, il y a du soft. Alors, il y a eu du hard au début, puisque les sociétaires ont constitué le capital de la société. Aujourd'hui, nous, on vend notre démarche à des collectivités locales. On leur vend une plus-value sociale territoriale des entreprises. Aujourd'hui, c'est le conseil régional de Picardie. Il y a des fonds privés aussi, de fondations. Il y a bientôt, j'espère, des collectivités locales ici en Picardie avec lesquelles on va travailler, hein, le Soissonnais, le Pontiédois. Voilà. On vend principalement, je dirais, cette démarche-là à des financeurs publics, mais il y a en gros 20% de fonds privés également.
Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de mettre sur le tir pour le film,
oui.
Tout hasard. Oui, bien sûr.
Pour récupérer ta présentation.
Oui, ça y est, c'est fait.
Sur le bureau, là.
Disponibilité, mais c'est sûr que votre expérience, je pense, a un gros intérêt pour tout le monde. Si vous avez envie de participer, ou cet après-midi, à la discussion et au choix, notamment des projets étudiants, ça pourrait être génial, mais je n'ai pas explicitement non plus invité. Ou éventuellement même, il y a aussi des jalons, il y a deux samedis matins pendant le semestre, et puis aussi où on travaille quoi, sur les projets. Votre participation là aussi, si vous avez une possibilité, ce serait intéressant.
Cet après-midi, c'est ici.
Ouais.
Et puis, donc, j'ai deux collègues de Sens, hein, oui. Nathalie et Fanny, là-bas, au bout à droite,
qui reste là avec vous.
C'est super.
Voilà. En partie.
Ah oui, on vous avait aussi compté, sans vous prévenir, dans les invités pour déjeuner à midi.
Ah,
on, pensait que ça, on pensait que ça allait de soi.
Ah, on a un peu mais... les mouches à du vinaigre. Ça se cale.
Donc, bah, réfléchissez, mais si vous ne voulez pas venir, dites-le nous, parce que du coup, on prévient le resto quand même.
Est-ce que l'internet est activé à ce moment-là?
Oui.
On va voir s'il y a un peu de temps. Non, je ne teste pas.
Ok.
Hop. Alors, on va changer, changer de point de vue sur la question, on va revenir à la question de l'innovation, et plus précisément de l'éco-innovation. Et là, je vais me placer vraiment plutôt d'un point de vue pragmatique et également très académique par rapport à ce qu'on vient de voir, mais comme ça, c'est complémentaire. Comment en entreprise, dans les équipes de conception, comment on s'empare de ces questions de sustainable design et comment en pratique faire de l'éco-innovation, avec quels outils, qu'est-ce que l'on a en main et puis qu'est-ce que ça veut dire. Quelques définitions et on va mettre... rapidement en contexte l'éco-conception et l'éco-innovation par rapport à certaines idées clés. Et on définira appel ou rappel, je ne sais pas ce que c'est que le facteur 4, le 10 et même le facteur 20, pourquoi pas. Pourquoi passer à des visions de scénarisation et de prospective, comment est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce que ça peut nous aider à aller vers des éco-innovations. Prise en compte des parties prenantes, on va passer assez vite parce que ça on en a parlé assez fréquemment, des approches innovantes que l'on trouve issues de différents milieux de la conception, donc les outils, on va en voir quelques-uns qui existent et on va voir que finalement il y a des grandes familles qui se dessinent et puis des exemples que j'ai sélectionnés comme étant éco-innovants à différents titres. Et avant de terminer, comment est-ce qu'on peut articuler des approches finalement très amont et très qualitatives avec des choses beaucoup plus argumentées en termes quantitatifs. Et là, il y a un nœud de recherche qui me semble assez important, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur les approches quanti très amont, pas mal de recherches sur les notions d'analyse de cycle de vie dont Tatiana nous a parlé. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a une zone à traiter. Alors, l'éco-conception, je rappelle vraiment très brièvement la définition de l'ISO, où il s'agit d'intégrer des aspects environnementaux pour des produits au sens large, produits au service tout au long du cycle de vie du produit. En parallèle, je mets la définition de l'éco-innovation donnée par James, et là qui est plutôt issue en droite ligne. De la conception de l'innovation. Alors là, on parle de produits, procédés ou services, ça, le sujet ne varie pas. Et c'est le point de vue qui varie. Il s'agit de créer en priorité de la valeur pour le consommateur ou pour l'entreprise, donc de la business value, tout en réduisant de façon significative, et le significatif est important, l'impact sur l'environnement. Donc, finalement, différence de point de vue dans le deuxième cas. Il semblerait que le point de vue prépondérant, c'est la création de valeur pour le consommateur et l'entreprise, et l'environnement est pris à part égale, n'a pas tout à fait la même position. Comme indicateur pour l'éco-innovation,
un indicateur qui a été défini par le World Business Council of Sustainable Development, l'éco-efficacité. Et qu'est-ce que c'est que cette mesure-là, enfin, cet indicateur? Ça consiste à offrir les biens et services à des prix compétitifs, donc ça reprend l'idée de business value de tout à l'heure, tout en réduisant. Alors là, ici, c'est défini par progressivement, donc là, je ne l'avais pas remarqué d'ailleurs, par rapport à significativement, les impacts sur l'environnement. Donc les deux sont très clairement corrélés. Alors, de façon significative, qu'est-ce que ça appelle? Ben, ça appelle à une notion de radicalité dans l'approche. Ce que l'on peut mettre en balance avec l'approche d'éco-conception, qui, on le constate, est le plus souvent dite incrémentale dans les entreprises, c'est-à-dire que on va commencer par s'interroger sur la question des matériaux, de la recyclabilité, de la maintenabilité, du désassemblage. Et on peut aller beaucoup plus loin, mais souvent l'éco-conception est une approche plus incrémentale et on attend de l'éco-innovation une approche plus radicale. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir le site de l'association Auré, qui est assez bien fait, qui a été mis en service en ligne récemment. Alors, pour avoir une vision un peu d'ensemble de comment se positionnent les produits éco-innovants par rapport à des produits de la conception de produits classiques. Un formalisme qui est proposé par l'un des auteurs, où on voit le contexte développement durable avec l'articulation production-consommation, dont on va reparler tout de suite après. Donc, dans ce cas-là, l'éco-conception, éco-design, on va ajouter la notion d'impact sur l'environnement et de la conception de produits existants. C'est une manière de voir les choses, hein, c'est une proposition. Ici, on va se baser sur la notion d'innovation produit à laquelle on va ajouter l'idée de réduction de l'impact environnemental. Et puis, si on se place dans une vision sustainable design, donc conception durable, ça se dit pas trop. En fait, on a pas mal de difficultés à trouver un terme en français, conception responsable, je ne sais pas. Enfin, souvent, on s'arrête au terme de sustainable design, dans lequel on doit ajouter l'intégration des impératifs, des considérations sociales et éthiques autour du produit au sens large. Alors là, j'ai quand même hésité, suite aux interventions d'hier, à laisser ce transparent, mais finalement, je le laisse, j'assume. Vraiment très schématiquement, si on représente les mécanismes actuels, ce qui existe entre le producteur et le consommateur, et ce n'est qu'un modèle très simplifié qui ne rend pas compte de plein de choses. On peut dire que, très schématiquement, le consommateur, par l'intermédiaire des produits, va avoir un certain nombre de dépenses de consommation. Et à l'inverse, le producteur, dans le mécanisme, dans la boucle, le mécanisme de croissance, il va produire des biens matériels et éventuellement des services et assurer de plus en plus d'apports nouveaux, puisque c'est un impératif pour la croissance. Comment se positionne le consommateur? Et là, c'est extrêmement raccourci par rapport à ce qu'a pu nous raconter Bernard Stiegler hier, et même le terme de désir n'est pas forcément tout à fait approprié, mais je le laisse quand même. Il y a un attachement à l'objet très particulier et qui est ancestral et qui en plus est complètement plein de paradoxes, c'est-à-dire que on a la possession d'objets et de nouveautés quelque part, ça participe à une sorte de rêve de vie meilleure, dans certains cas, jusqu'à un certain point. Et en même temps, le fait d'en posséder toujours plus, eh bien, on a un non-assouvissement éventuellement, un sentiment d'anxiété par rapport à une profusion de biens matériels. Donc il y a tous ces aspects qui existent, mais qui sont évidemment... Tout ça est beaucoup plus subtil si on prend en compte des approches comme celles développées hier. Donc c'est assez schématique. Du point de vue du producteur, il s'agit de produire, de s'adapter et comme on le dit souvent, l'innovation c'est une condition à la survie, donc c'est innover, Feltrak aussi, innover ou mourir. Mais innover, comment, pour faire quoi? C'est un peu la question. Alors, à nouveau, je vais faire écho à des choses qui ont déjà été dites en essayant d'un point de vue de chiffres. La notion de découplage, il est important de voir que il faut faire vraiment une différence entre ce qu'on appelle le découplage relatif et le découplage absolu, et que finalement l'éco-conception, de par son positionnement, ce qui va souvent nous amener à reconcevoir des produits existants et donc à comparer un nouveau produit à une référence, va souvent s'inscrire dans cette idée de découplage relatif où le but est de faire plus avec moins de ressources et donc avec moins de dommages environnementaux. Et qu'est-ce que l'on voit sur ce graphe? Que globalement, et ce n'est pas vrai pour tous les pays, mais pour la majorité des pays de l'OCDE, depuis 25 ans, on a une diminution de la consommation de matière par rapport à une production de biens donnés. Donc là, c'est l'intensité de matière, elle est mesurée à l'aide d'un indicateur qui est l'intensité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie primaire pour la production d'un certain produit économique, qui peut être un véhicule par exemple. De façon effective, depuis 25 ans, on a une baisse de cette quantité d'énergie primaire. Ça n'est évidemment pas vrai pour des pays comme l'Inde ou la Chine, où c'est en train de monter au contraire. Donc, découplage relatif, ça voudrait dire qu'on va dans le sens de l'éco-efficacité, hein. On va a priori dans le bon sens, mais cela n'est finalement pas suffisant. Pourquoi ? Parce que, au contraire, si on regarde... Donc la vision découplage absolu, en absolu, et il faut arriver à voir de manière globale, a-t-on une diminution globale de l'impact et de façon complètement absolue? Et là, si on regarde sur l'indicateur consommation directe de matière dans les mêmes pays que tout à l'heure, on a tout au mieux une stabilisation. Et sinon, c'est en train de croître. Si on regarde l'indicateur émission de CO2 mondial par rapport à 1970, on est en réalité une augmentation de 80%, soit 3% en moyenne, 3% l'an. Donc, de façon absolue, on est sur une pente qui est quand même plutôt croissante. Et effectivement, les démarches d'éco-conception... et d'éco-innovation aussi d'ailleurs, enfin, à discuter, est-ce qu'elles nous permettent d'infléchir ça ou pas, et comment? On n'a pas vraiment du fait de la nécessité de vision globale et mondiale, ça pose quand même d'énormes problèmes de prise en compte pragmatique. Une petite remarque sur le problème de la mesure de cet indicateur. c'est d'ailleurs aussi une limite de ce type d'information-là. Comment est-ce qu'on peut identifier réellement des flux réels de ressources c'est très difficile d'avoir les données avec des produits qui sont fortement délocalisés. On peut dire qu'on a tout au mieux une tendance, mais en chiffre absolu, est-ce que finalement tout cela est bien pertinent? Cette notion de découplage, elle est importante à connaître, mais est-ce que c'est bien suffisant? Donc ça, c'est un peu la mise en contexte. Alors, pour se positionner de façon radicale, eh bien, il y a la notion de facteur 4 qui a été d'abord mise en place en 1997, qui fixe des objectifs de consommation à la fois énergétique et sur les ressources, où on va dire l'objectif est de diviser par 4 à un horizon donné. Alors les horizons sont très variables suivant les sources que l'on examine. Pour le rapport facteur 4 de 2006, c'est un horizon de 2050 et ça a été réduit à la consommation CO2. Autre définition, c'est de dire multiplication par 2 du bien-être ou de la richesse, qui n'est pas du tout pareil, mais on trouve les deux. Et tout en divisant par 2 l'utilisation des ressources naturelles. Donc l'idée de ces facteurs-là, en prenant en compte l'horizon, c'est de dire on va avoir un objectif de consommation qui va être corrélé, qui va être mis en rapport avec l'augmentation de la population mondiale. Et si on veut avoir une vision, donc ça c'est une vision à moyen terme, à 20 ans, 30 ans. Et puis, vision long terme, il faut obtenir un facteur 10. Il faut diviser par 10 la consommation de ressources à un horizon plus lointain. Et on peut être même encore plus drastique et parler de facteur 20. Donc, nécessité d'une vision globale à long terme. Et une solution pour faire ça, c'est d'utiliser de la scénarisation. Oui ? Ouais. C'est la définition telle qu'elle est donnée parfois. Alors, c'est comment faire pour.
Parce que j'ai l'impression que si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, on ne peut pas faire des objectifs.
Ouais, ouais. Mais alors, tout ça, après, qu'est-ce qu'on met derrière hein? C'est aussi soumis à discussion, à réflexion. Quels sont les indicateurs derrière tout ça? Alors, qu'est-ce que c'est que faire de la scénarisation? Ce qui peut aider à avoir cette vision long terme, c'est se déconnecter d'une réalité. Donc, on peut avoir des scénarios plutôt... d'un monde sans limite, bon là on n'est plus du tout là-dedans, mais ça permet d'avoir une gradation, des scénarios de transition, et puis un scénario où la société a complètement changé de valeur, et des valeurs par rapport à la nature, des valeurs, une société qui promeut des valeurs d'équité, de communauté, de spiritualité, etc. Donc ça va aider pour les équipes de conception et puis aider de différents autres acteurs à projeter des produits ou des services dans une société qui n'est pas la nôtre. Donc ça c'est une manière d'essayer de se projeter. Alors, par exemple, pour un atelier pour Panasonic qui a eu lieu cet été, auquel j'ai participé, imaginez des applications domestiques dans une société où on promeut plutôt la confiance, l'apprentissage, Et là, imaginez un scénario où qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, différents niveaux de contrôle de l'énergie, des prix différents suivant qu'on a une utilisation individuelle de certains produits ou une utilisation collective. Donc, taxer, par exemple, l'utilisation individuelle de certains produits qui serait quand même possible et avoir des prix différents dans l'optique service, hein, des prix différents proposés pour une utilisation collective d'un téléviseur, par exemple, et puis choisir pouvoir choisir de voir la télévision tout seul et donc là d'avoir un type d'écran plus petit, par exemple, et puis un grand écran quand on est à plusieurs, ça peut permettre de partir sur des scénarios différents. Donc des idées qui peuvent être assez loufoques. Et comment on fait pour revenir à notre époque? Et ben, la technique de backcasting, donc on essaie de retrouver des étapes intermédiaires pour revenir en arrière et proposer une gradation pour arriver jusqu'à cette échéance de 30 ou 40 ans. Alors, pour faire de l'éco-innovation, intégrer les parties prenantes, on en a déjà parlé plusieurs fois, ce serait même, par rapport à ce que je décris là, la notion de partie intéressée de Gilles Le Cardinal, où il y a l'entreprise élargie, plus les consommateurs, les ONG, les représentants des gouvernements, etc. Et une des manières graphique que l'on peut utiliser pour fixer les idées par rapport à ça, c'est tracer un réseau des parties prenantes, un produit au centre, et puis tracer des diagrammes de flux de matière et d'informations, et voir visualiser en groupe les points critiques. Alors, les approches innovantes qui sont vraiment qui sont à l'œuvre depuis quelques années. Le Product Service Systems, on a eu l'occasion d'en parler au PSS sur plusieurs types d'exemples. Une ressource logicielle qui est intéressante, mepss.nl, en ligne, est gratuit. Donc si vous voulez aller voir, ce sera une source d'informations intéressante. Et à nouveau, une gradation possible pour passer d'un produit matériel intégral jusqu'à un pur service. Avec, sur une version produit classique, par exemple l'ajout de services de maintenance ou de garantie, ça c'est la version minimale, un service de location pour une orientation usage, location et donc plus de propriété par l'utilisateur, et puis un service pur comme un service où il n'y a plus de matérialité du tout, garde d'enfants, aide à la personne. Voilà. Donc ça, c'est une des manières d'aborder la dématérialisation, arriver à passer du produit matériel au service. Alors une approche qui est plutôt née de l'approche design industriel, qui est très centrée sur l'utilisateur, qui s'appelle le Design for Behavioral Change. Donc agir sur les changements de comportement par la conception des produits ou des services, puisque c'est un des leviers, on a entendu parler à plusieurs reprises, un des leviers pour limiter les impacts, c'est prendre en compte le comportement réel du consommateur, et notamment pour les produits consommateurs d'énergie. Pas uniquement, mais c'est assez crucial dans ces cas-là. Donc là, on a tout un tas de stratégies qui sont possibles, de juste l'information au consommateur qui est portée par le produit, on va faire un exemple, jusqu'à une notion de contrôle un peu plus musclée du comportement du consommateur, est-ce qu'il faut aller jusque-là, jusqu'à la récompense-punition? Est-ce qu'il faut mettre une décharge électrique si on utilise son téléphone portable à mauvais escient, par exemple? Bon, à discuter jusqu'à quel point il faut aller, mais ça fait partie des démarches possibles. Donc là, un petit exemple de la stratégie de retour aux consommateurs. Ce sont des projets qui ont été réalisés par un designer qu'on a fait intervenir ici il y a 2 ans avec EDF. Alors c'est des choses finalement assez simples hein, pour donner l'idée sur l'énergie, hein, de consommation d'énergie avec une visualisation de l'énergie. Et sur l'énergie, c'est assez c'est un des problèmes, hein, c'est qu'on ne visualise pas l'énergie. Donc voir lorsque l'on s'en sert par un petit réseau lumineux LED, ou alors les LED sémaphores qui se branchent sur une prise et qui vous donnent le coup de si vous êtes en heure pleine ou en heure creuse, par exemple. Alors une approche qui paraît un peu anecdotique comme ça, mais qui m'intéresse, c'est l'idée de design participatif. Donc ça, c'est un site qui s'appelle Metacycle, c'est des Canadiens qui font ça, et qui lancent des sortes de défis en ligne pour tous, et qui invitent à concevoir de nouveaux objets à partir d'objets usagés comme des feutres, des crosses de hockey, des brosses à dents, tout plein de choses comme ça, de les réutiliser, dans le but évidemment d'éviter des déchets. Alors ça paraît assez marginal, mais dans l'idée c'est intéressant. Et pour cela, créer de nouveaux objets en proposant de créer une pièce intermédiaire qui peut être fabriquée en stéréolithographie, donc impression 3D. Alors ici un petit exemple d'une horloge qui est réalisée avec une pièce centrale en stéréolithographie qui va servir à monter les feutres. Et donc là, il s'agit de proposer ces pièces intermédiaires qui permettent de faire de nouveaux objets. Et on donne son fichier STL, donc son fichier numérique en ligne, éventuellement, pour que tout le monde puisse en partager, donc le partager. Donc il y a l'idée de design participatif qui vient se greffer là-dessus, et je trouve que l'initiative est originale. Il y a quelque chose d'intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi, à participer, pourquoi pas. Alors maintenant, comment avoir un niveau amont, comment avoir une vision globale pour proposer, pour aller vers de l'éco-innovation. Donc il y a deux outils, représentations graphiques qui datent de la fin des années 90, hein, qui sont la roue d'éco-conception et l'éco-compass, et qui finalement se trouvent déclinées de plein de façons. Et qui sont des manières le plus souvent qualitatives de représenter les enjeux. À quoi ça va servir? Il y a plus C, D, E ou des OU. Identifier des dimensions produits à considérer en priorité, donc réduire la complexité du problème et se focaliser sur certains aspects. Communiquer sur des impacts avec comparaison de différents produits, et puis organiser la présentation de résultats. Ça, c'est actuellement tel que c'est fait. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Donc pour ces outils-là, si on veut les visualiser, et c'est pas exhaustif évidemment, on va parler de cette roue d'éco-conception, de l'éco-compass, du Product Idea Tree. Il y a d'autres méthodes qui sont dérivées des méthodes de créativité, comme le TRIZ, qui a été adapté en Green TRIZ. Et donc une approche qualitative, donc a priori une faible complexité au niveau de la mise en œuvre, et puis une utilité à différents niveaux. Et en référence, je mets l'analyse de cycle de vie comme étant une approche plutôt complexe à mettre en œuvre, liée au grand nombre de données à manipuler, comme on l'a vu il y a deux jours. Bon, d'autres approches, et il y en a bien d'autres, mais c'était simplement pour les situer par rapport à ce que l'on peut en faire. Donc, ce qui revient évidemment très fort, c'est la notion de cycle de vie, et ces outils graphiques se fondent vraiment sur le cycle de vie et donnent en plus, alors pour celui-ci, cette roue d'éco-conception. Il va y avoir un certain nombre de préconisations, d'idées guides associées à chaque item que je n'ai pas repris ici. Et puis graphiquement, on va pouvoir positionner un produit plutôt qualitativement ici, en mettant une note de 1 à 5, et ça permettra ici très clairement de comparer deux produits. Alors l'éco-compass graphiquement fonctionne un petit peu de la même façon, en définissant des items qui sont pas complètement, qui ne collent pas complètement au cycle de vie, qui sont plutôt liés aux impacts. C'est une extraction de grandes typologies d'impact telles qu'on a vu avec Tatiana il y a deux jours. Et là, eh bien, on va avoir des notes qui vont être mises en relation avec le facteur 4 pour la note de 5. La note 5, ça voudra dire que pour l'indicateur donné, eh bien, on va pouvoir atteindre un facteur 4. Alors, ce qui n'est pas dit ici, c'est que pour pouvoir noter de cette façon-là, eh bien, il faut être adossé à une analyse de cycle de vie simplifiée éventuellement. Mais il y a besoin de s'aider d'une approche quantitative. Donc là, visuellement, ça va servir à positionner une nouvelle version d'un produit par rapport à une ancienne. Et ça, c'est l'exemple des copiants Grand Xerox dont on a déjà entendu parler, dont on peut donner une forme de cartographie par rapport à ces catégories d'impact. Sachant que le plus fort apport va être sur la revalorisation, on va avoir un facteur 2 d'atteint. Alors pour aller un petit peu plus loin, puisque là vous avez vu seulement la composante environnementale seule était prise en compte, un outil graphique à nouveau, on a rajouté un cercle, qui est le cercle social, puisque là, c'est un des seuls qui permet d'avoir une visualisation de ces notions autour de l'impact social. Alors ici, vision un peu différente, il ne s'agit pas de mettre des notes, c'est une approche beaucoup plus floue, où on va mettre des zones, on va définir des zones avec des drapeaux jaune, orangé, rouge, suivant qu'on est dans une option satisfaisante du produit développement durable ou pas du tout. Alors là, comme souvent, ce sont des outils existants et des manières de faire existantes qui ont été adaptées. Et là, on utilise l'idée de la carte mentale, donc la description arborescente. Ça peut être à la fois pour représenter des idées à l'issue d'une session créative, mais en les organisant suivant des axes qui reprennent aussi la notion de cycle de vie. Et en faisant cela, ça peut permettre de voir des zones qui n'ont pas été bien explorées, par exemple, et d'organiser la communication de certains résultats. Donc ça, c'est vraiment pour favoriser le travail créatif et de conception. Et puis toujours dans l'idée d'avoir une vision globale, on peut essayer d'avoir une approche comme ceci, où on a un axe plutôt type apport individuel et apport de société, d'un point de vue de la matérialité du produit et de son immatérialité. Donc que provoque, quelle est la conséquence du produit sur l'estime et l'expérience d'un point de vue d'individu, et l'expérience au niveau du collectif, ça peut être quelle est l'influence sur d'un point de vue éthique, politique, religieux, pourquoi pas, et puis d'un point de vue matériel, comment on positionne le produit. Donc à nouveau l'idée d'avoir une vision globale. Alors là, qu'est-ce que j'ai retenu, quelques exemples qui sont pour moi des éco-innovations. Ça n'est pas seulement de l'innovation technologique, mais bien le fait d'avoir pris en compte de nombreuses parties prenantes et d'avoir un maillage au niveau des parties prenantes. Alors j'aime beaucoup, on va retourner au Bénin, l'exemple de Soltis. Qui est une petite entreprise française. Technologiquement, c'est très simple. Il s'agit d'une lampe à LED étanche de ce type-là, qui peut être portable ou accrochable, tout ce qu'on veut. Et le génie vraiment du créateur de l'entreprise, c'est d'avoir prévu des contextes d'usage de façon très cohérente, à la fois pour la France, dans le cadre de l'habitat isolé ou de l'écotourisme, pour avoir accès à la lumière de manière facile, et puis pour les PVD, dans le but de créer une activité économique locale. Donc là, l'exemple... Alors je ne sais plus si c'est... Alors je vais dire des bêtises, non, je crois que c'est au Bénin, et non pas au Mali... Donc là, le petit film, si j'arrive à lancer, ça va être l'installation d'un système de location de ces lampes, avec installation des panneaux solaires sur la fontaine du village. Alors, est-ce que ça va marcher ? Bon, sinon, ce sera... Bon, bah non.
Attends.
Non, mais c'est pas rien.
Il y a quelque chose de simple, possiblement.
Mais sinon, c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est pas ça. Bon. Donc là, on ne s'est pas du tout arrêté au produit. Il y a vraiment la création à l'aide, sur l'exemple qui est cité là, de la Croix-Rouge. D'un accès au service solaire, et donc on va remplacer les lampes à pétrole, créer un emploi local et assurer la maintenance en local. Donc là, tout n'est pas fait localement, mais il y a quand même un souci d'intégration locale. Alors là, ça aurait dû venir avant. C'est un exemple plutôt basé sur la technologie par Panasonic, du lave-linge, pour voir que là, on n'est pas du tout dans le même type d'approche. On a une touche de low-tech pour réduire la consommation d'eau en inclinant simplement le tambour. Donc ça, c'est tout simple. Mais finalement, l'innovation, là, est très fortement high-tech, avec énormément de capteurs. Des capteurs pour savoir quel est le poids du linge à laver, comment il va falloir, à quelle vitesse il va falloir que le tambour tourne, etc. Donc, à contrario, là, c'est pas du tout la même approche, mais je voulais quand même la signaler. Alors, un exemple de fabrication de balais en bois par une entreprise britannique, à partir de bois d'EVA qui est en fin d'exploitation. Et là, l'idée, c'est de se servir du tronc pour fabriquer les balais, mais également de servir des branches pour fabriquer du charbon en local. Des root balls, alors je n'ai pas su vraiment le traduire. Ça, c'est exporté, c'est vendu à des paysans japonais pour faire du champignon shiitake. Et les déchets vont être utilisés pour faire de la litière. Donc là, à nouveau, une vision assez globale de cette entreprise-là pour utiliser la matière première de l'arbre dans son intégralité en mettant en jeu un jeu de parties prenantes assez large. Et puis pour finir, toujours dans l'option service, où on n'est plus sur du produit, mais sur du service de préparation de repas. Ça, c'est une expérience espagnole. L'idée, ça a été de voir qu'il y avait un besoin de livrer des repas à la fois à des personnes âgées en maison de retraite et dans cette même zone locale, de livrer des repas à des employés de bureau dans des petites entreprises, dans des zones qui étaient un petit peu excentrées, et donc de leur proposer une offre de repas équilibrés, bio pourquoi pas, et de concevoir le système qui permet cette livraison de repas. Pour terminer, donc c'était assez bref sur les exemples, mais c'était à mon sens l'éco-innovation, elle allait bien au-delà de la matérialité du produit, et c'est à peu près le propos qu'on a voulu tenir pendant ces quelques jours. Autour de l'éco-compass, finalement, d'un point de vue pratique, comment ça se met en place au point de vue de l'équipe de conception, comment on peut faire ça? Eh bien, on peut dégager des tendances. À l'aide de l'éco-compass, on va avoir les différents items qui vont permettre de faire du brainstorming. On va organiser les idées, celles qui, en groupe, hein, quelles sont celles qui ont de la valeur, qui n'ont pas de valeur, et les classer par rapport à la soutenabilité de ces idées. Ensuite, voir d'un point de vue de la compétition, des concurrents, pardon, comment se positionnent les concurrents et comment l'entreprise elle-même se positionne. Positionner les différentes idées qui sont des petites idées sur un nouveau radar, et voir dans une nouvelle passe, faire une analyse de cycle de vie complète de ces propositions qui sont obtenues par petits morceaux et qui sont remises ensemble pour proposer des vrais concepts éco-innovants, et on valide quantitativement avec une analyse de cycle de vie enfin. Donc on allie des approches de type créative et évaluation. Pour finir, des questions. Alors, ce n'était pas pour faire un mauvais jeu de mots, ça sent un peu sens, j'y avais pas pensé. Faire de l'éco-innovation dans le contexte actuel des entreprises, cela a-t-il du sens et lequel? Et il y a eu plein d'éléments de réponse qu'on a eu les jours qui ont passé. Dans quelles conditions dans l'entreprise, dans quelles conditions organisationnelles, ça on en a parlé hier. Est-ce qu'il est possible de prétendre à un découplage absolu en ayant une démarche d'éco-innovation? Vaste question, parce que derrière tout ça, comment est-ce qu'on quantifie de manière prévisionnelle le bénéfice de ce type de projet? Et est-ce qu'on a une garantie d'avoir un découplage absolu, d'avoir une baisse vraiment absolue dans la consommation de ressources? Est-ce qu'on peut réellement changer les comportements de consommation et comment on fait? Alors ça me semble vraiment un très gros morceau. Hein. On a des tentatives, mais est-ce que c'est parce que le concepteur prévoit tel ou tel mécanisme que le consommateur va suivre la consigne? Est-ce qu'il suffit d'informer pour être pour changer des comportements? Bah, probablement que la réponse, elle est un peu dans tout ça, c'est-à-dire qu'il faut agir à plein de niveaux différents. Que peut-on faire face à l'accès à la consommation de masse des pays émergents? Voilà. Merci.
La parole à la salle.
Il y a le concept de découplage absolu et le reste.
Ouais. Qu'est-ce qui vous gêne?
Dans l'enchaînement à la baisse.
Ouais.
C'est-à-dire que dans un produit, en moyenne, la quantité de matières premières diminue.
Bah, c'est ce qui est observé, mais c'est ce vers quoi on veut tendre. Attends, je vais y retourner. Voilà. Oui, donc.
L'intensité,
c'est la consommation
de l'économie.
Oui, d'énergie. C'est une quantité d'énergie rapportée à une unité de produit. Si vous voulez, si vous suivez un produit. Bon, véhicule automobile, dans les années 80, vous avez certaines consommations en mégajoules pour produire ce véhicule. Et plusieurs années plus tard, eh bien, ça a diminué parce que moins de matière, allègement, parce que changement de matériaux, etc. Donc ça, c'est en absolu, ça a découplé. Mais le problème, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à avoir une voiture, voire deux voitures. Et donc, ça vaut avoir diminué de manière relative. En absolu, ça explose du fait de l'effet de masse. C'est ça que je voulais dire.
L'augmentation de la consommation.
Voilà. Ouais. Donc, en absolu, c'est lié à l'explosion démographique.
Ce qui est intéressant dans ce propos, c'est que ça ne tire pas la production de déchets,
s'attire à l'utilisation d'une matière première non usagée à être transformée en soi-disant déchet. C'est là où du coup le process est dérivé. La notion de on a tous le temps à un moment d'être à l'heure, à un moment en quart, et on n'était pas obligé d'avoir une horloge chinoise à la maison. Bien entendu, on a rêvé qu'il n'y a pas de Chine aujourd'hui. Ça appelle à réfléchir aujourd'hui effectivement sur l'usage et la production relocalisée. Il y a tous ces concepts aussi derrière qui sont à tout besoin d'un réveil et d'une horloge de Chine aujourd'hui dans la maison, alors qu'on a définitivement tous besoin d'être à l'heure pour prendre un cours, pour un train, un bus, être au magasin avant d'y faire, etc. Donc, là, ça appelle pour moi des choses plus lointaines encore sur quelle stratégie de production de besoin.
Cet exemple me paraît assez intéressant malgré, de prime abord, son caractère assez anecdotique, parce que justement, finalement, il fait ressortir des choses assez profondes. Je me demande si l'intérêt de cela, c'est effectivement pas l'éco-efficacité, voire la possibilité de réutiliser un objet, etc., ce qui est vachement bien, mais si c'est pas, en reprenant un petit peu les apports de Bernard Stiegler hier, si c'est pas la déprolétarisation de nos esprits qui est en jeu. C'est-à-dire que c'est le processus lui-même qui est important pour reprendre la situation de Saint-Exupéry. C'est le processus créatif, en plus de création collective, qui tisse de la créativité sociale, collective, qui tisse de l'humain et du social, qui est plus important que finalement le résultat final. Bon, c'est une question.
Et finalité pédagogique, moi je la vois assez clairement. Et là, du coup, vous pouvez vous poser des vraies questions. Et après, on peut rajouter des outils, on peut faire l'analyse du cycle de vie si on veut, hein, derrière tout ça, mais il y a une vertu pédagogique de la manière de faire, je trouve.
Mais au final, pourquoi faire de l'éco-conception, de l'éco-innovation pour continuer dans le sens de. Ben, au final, c'est pour faire consommer les consommateurs encore plus.
C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Quand je pose les questions à ça, là, c'est. Justement, tel qu'on le fait actuellement, si on reste sur les mêmes bases, ça ne sert à rien. Les vraies éco-innovations, là, c'est de mettre en rapport des gens avec une finalité de service et le produit est au service du service. C'est mal dit, mais.
Juste pour donner un autre exemple, donc, sur le Canada, parce qu'effectivement, c'est pas l'unicité, si on fait comme ça, sur le compost. J'avais trouvé ça par Insta, je l'ai dit au moins l'année dernière, un mémoire d'un groupe d'étudiantes. Les Canadiens ont développé un système, on a du mal de développer le compost individuel. C'est des grands bacs carrés, il faut aller retourner le truc manuellement, enfin, ça reste l'enfer ce truc-là, en France on n'a pas trouvé. Et les Canadiens ont développé un système à partir des bidons alimentaires, puisque beaucoup d'aliments de la restauration collective sont livrés en bidons. C'est des gros fûts alimentaires. Mais l'avantage, c'est qu'on peut les percer, qui tiennent ensemble et qui ne sont pas lourds. Plus des trains de la réhypo usagés, plus des morceaux de chez Pourquoi de salle de bain. Enfin bref, il y a assez grand de la réhypo sur des charges. Ils ont monté un système innovant de composteur qui est perforé, qui sur la traîne, des faire de rotation, donc le compost se masque tout seul, etc. Ça devient hyper trivial. Les personnes âgées doivent le faire chez elles. Et du coup, c'est une économie locale qui se remise en place. Autour de ça. Et le produit a mis du temps, parce que c'était un peu plus au départ. Et les gars qui ont monté ça, il y en a un qui est d'origine française, ils ont migré là-bas. Leur truc prend. C'est assez impressionnant. Ils se demandent s'ils vont pas revenir avec des capitaux en France. À part qu'on n'a pas ces bidons alimentaires. Donc là, il y a un autre truc en plastique léger, qui est l'astuce du truc. Il faut qu'ils trouvent autre chose.
Il faut localement
trouver Mais ils vont trouver, c'est sûr. Mais c'est pour dire qu'on ne va pas pour autant consommer plus pour avoir plus de bidons pour faire son compost. Je pense pas qu'on en arrive là, c'est stupide. Mais par contre, ben voilà, on a un problème sur le compost aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire prendre ça. Et ben, il y a des gens au Canada qui ont trouvé une idée assez futée de faire en sorte que tout soit aéré de manière vivable. Voilà, je trouve que là, on a des trucs à aller chercher. Quoi. Il y a vraiment des innovations, et c'est des jeunes ingénieurs qui ont fait ça.
Et l'innovation, est-ce qu'il y a
des
comment faire augmenter notre économie ? Parce que entre la suite du bricoleur qu'on va trouver sur Internet, même une association qui va se lancer dans le monde de compost, des gens qui vont
racheter, revendre sans faire de contrat, et passer, faire le passage à l'économie viable.
Ouais, mais je pense que c'était pas le but. Hein. C'est pas le but, hein, comme disait Pascal. C'est pas forcément le but d'aller vers quelque chose d'économiquement viable. Enfin, dans ce cadre-là. Hein. Dans certains cas, oui, c'est pas automatique.
Enfin, moi, c'est une question que je me pose quand même dans l'absolu, sur toutes ces petites astuces low-tech ou sur toute l'innovation qu'on peut avoir, à quel moment on se dit, économiquement, il y a peut-être un truc à faire. C'est peut-être pas juste j'ai une idée et j'en peux profiter pour le monde, j'ai une idée, j'en peux profiter pour le monde, et en même temps, ça me permet d'avoir une activité économique derrière.
Je pense que là, il y a des choses à trouver au niveau local. Hein. C'est le sens de ce que tu fais d'ailleurs, dont tu vas parler. Évidemment, si vous avez une ambition mondiale, ça va marcher. Mais localement, je pense qu'il y a des modèles à trouver, hein, avec des modèles de gouvernance particulières. Et c'est tout à fait possible. Évidemment, on a tous le modèle en tête de l'entreprise. Voilà, on a quelque chose en tête qui fait que ça ne correspond pas, c'est clair. Par contre, si on passe sur des versions coopératives, je pense qu'il y a des choses à creuser.
Justement, l'idée c'était que plutôt de créer encore la vision de l'IFO industrialiser le process, alors que l'idée c'était plus chacun fait de la participation et en plus, l'idée c'est plutôt de faire une entreprise qui sert à l'information et à la mise en relation de ces services. Même si ça reste de l'innovation ponctuelle personnelle, tout c'est de faire transmettre l'idée.
Ouais,
ce serait ça l'économie. L'économie, ce serait la mise en relation plus que l'industrialisation.
Oui, bah oui, puisque là, on est sur un autre niveau. C'est les immatériels 2, c'est ça? Non, c'est pas cela.
tout à fait, c'est tout à fait ça.
Je vais apporter peut-être un petit éclairage sur la question tout à l'heure sur le facteur cap, parce que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Les indicateurs de bien-être, on en trouve quand on fait sur du bonheur intérieur brut, d'autres choses qui sont plus compliquées, qui sont souvent agrégées. On revient au problème dont Jim nous a parlé sur la chose. Quoi qu'il en soit, il faut avoir esprit que ce facteur 4, c'est quand même un objectif plutôt mondial. Et que la multiplication par deux des indicateurs de bonheur est plutôt dans les pays où les besoins primaires ne sont pas tous satisfaits. Et une partie des populations dans les pays du Sud. Mais globalement, toutes les personnes qui sont dans cette salle, je pense que ça ne sera pas multiplié par deux. Voilà.
Sur l'alimentation.
Et chez nous, il y a énormément de gens concernés. Sur est-ce que je peux améliorer la qualité de mon alimentation pour mourir moins vite, pour ceux qui ont les moyens, et puis pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour bouffer tous les jours. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème en France, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez deux stratégies, vous travaillez sur du produit, forme d'une date. C'est vivre la hard discount, c'est vivre la production en masse, la massification, parce qu'il faut produire pas cher. Et puis je vous passe les externalités négatives sur l'huile de palme hydrogénée et tout restreint. Mais il y a un vrai problème de fond. Alors vous avez les grands de la distribution alimentaire qui communiquent sur l'amélioration du bien-être et tout y quanti. Et puis l'externalité, c'est qui la paye? Ben, c'est vos impôts pour ceux qui en payent, quand peut-être pas tout de suite pour beaucoup d'entre vous, mais pour moi, c'est fait depuis un moment. Donc on la paye. Et vous avez quand même des grands chercheurs aujourd'hui, et des médecins qui témoignent, et des chercheurs sur la grève, qui disent attention, le fait que les gâteaux aient besoin de choses à manger, ils en vont plus. Mais si c'est sur vos impôts que vous voulez passer, je pense que ça, il y a un moment, du coup, on va faire des choses pour faire tout à l'heure, les médecins et les autres. Pour moi, c'est applicable qu'à une échelle de territoire donné. Alors, je sauve un pays, une région, un département, la France, l'Europe, la planète, je choisis. La planète est a priori pas une mauvaise échelle en soi. Et je réfléchis. Parce que je gagne et j'aime voir le bien-être des populations données, et puis j'enflingue un paquet à côté, je pollue la planète, et les autres vont payer, puisque c'est pas la grande distribution qui paye les impacts de transport. Moi, ça m'interpelle aujourd'hui en tant que consommateur. Donc voilà, il y a un moment, effectivement, je trouve les modèles, en tout cas, toutes les trucs super intéressants, ça amène à réfléchir.
Oui, c'est ça. C'est bien le but.
Après,
c'est bien le but.
Vigilance de se dire, on les applique à quoi? Et on fait des grosses âneries aujourd'hui dans le monde industriel sur des renouvelables. Et puis après, sur le pétrolier, on peut encore débattre. Sur de l'intérieur, normalement, je connais beaucoup de gens qui sont dans l'industrie de l'intérieur, qui sont très interrogatifs sur tout ça, sur ce qu'ils entendent en interne. Ils s'interrogent. C'est aussi.
C'était le but de la présentation. C'est pas du tout de présenter des vérités absolues. Hein. D'accord, c'est qu'on arrive à discuter sur la validité de tout ça. J'ai peut-être pas assez dit.
Bien, on a à peu près 20 minutes de retard sur notre planning.
Voilà.
Donc, on va écorner l'intervention du dernier. Mais on va aussi pas essayer de réduire petit peu notre pause. Mais il faut la prendre parce que je crois qu'il y a même des petites choses qui sont prêtes.
On fait quoi 10 minutes
10 minutes, 15.
Oui. Oui.
Trop cher.
je vais aller faire un jour de fou sur des vies, donc promis que le mois prochain, je descends avec eux le voir. Je veux la développer, je veux dire comment il arrive à agir dans des fleurs si bas sur du bio en prime ou pas. La carotte bio, conditionnée, congelée, ça rend bien du carré dans mon chef que de la carotte.
Je connais bien le problème. Et je voyais bien ça avec les. Il y avait des. Ils recevaient des carottes qui avaient du fleuve. C'est un peu. Et à côté de ça, il y avait des carottes de producteurs de chez nous qui étaient.
On est 15 familles, on achète un ou deux bons. Et voilà.